Écho d'ici, écho d'ailleurs. Jean-Pierre Bouris.
Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle saison d'Écho d'ici, Écho d'ailleurs, l'émission qui démontre toujours les rouages de l'économie mondiale. Aujourd'hui, début du mois oblige, nous sommes dans notre format grand invité de l'économie, préparé avec l'aide de Julien Clémenceau de Jeune Afrique qui malheureusement n'a pas pu nous accompagner. Et aujourd'hui, notre grand invité, c'est vous, Donald Kaberuka, bonjour.
Bonjour.
Donald Kaberuka, vous êtes né à Kigali, au Rwanda, vous avez grandi en Ouganda, vous avez fait vos études à Dar es Salaam en Tanzanie, puis en Grande-Bretagne. Vous êtes surtout connu pour avoir été président de la BAD, la Banque africaine de développement, poste que vous avez occupé pendant 10 ans jusqu'en 2015, et période pendant laquelle le siège de la banque était surtout à Tunis. Vous êtes aujourd'hui à la tête d'une autre banque, Southbridge, c'est une banque privée qui a des bureaux à Paris, à Abidjan, à Kigali, bientôt à Lagos, nous annonce-t-on. Mais où vivez-vous donc, Donald Kaberuka?
Merci pour cette invitation. Vous savez, depuis que j'ai quitté la BAD, l'Afrique reste toujours ma passion. Donc, je suis à Kigali.
Votre famille est à Kigali?
Oui, mais je me déplace beaucoup sur les trois régions que vous avez citées. Et surtout aussi en Afrique, dans différents pays. Parce que j'ai quitté la BAD, mais l'Afrique ne m'a pas quitté.
Et quels sont vos pays de prédilection, s'il tant est qu'il y en ait, en Afrique?
Tous les 55 pays
tous
africains m'intéressent.
Alors, avant d'être président de la BAD, vous avez été ministre des Finances du Rwanda et de la prospective économique pendant presque 8 ans. L'argent, c'est important pour vous?
Bon, vous savez, la vraie question, c'est de savoir...
Et aujourd'hui, vous êtes banquier privé?
Oui. Il faut pas voir mes activités en termes de banque privée ou banque publique, banque de développement. Et l'Afrique a besoin de s'épanouir, de se développer. Et aujourd'hui, les capitaux se trouvent surtout dans le privé. Pendant longtemps, il y avait cette mythe comme quoi l'argent d'abord se trouvait au nord. Donc c'était le nord vers le sud. Aujourd'hui, avec la globalisation, ce n'est plus le cas. Mais aussi, il y avait notre mythe, comme quoi l'argent se trouvait dans le domaine du public. Aujourd'hui, on sait que les capitaux privés, c'est cela qui va conduire à l'épanouissement de notre continent. Donc, la banque qu'on a mis en place, panafricaine, qui croit en Afrique, promouvoir les champions, et conseil stratégique, conseil financier... Et bientôt, capital investissement. En fait, c'est continuer le travail que je faisais là-bas différemment.
Vous êtes en train de nous décrire ce que fait votre banque privée, Southbridge, que vous avez créée avec Lionel Zinsou.
C'est cela. Promouvoir les champions panafricains et attirer des capitaux privés vers l'Afrique. Conseil stratégique, comme je dis, et bientôt capital investissement.
Donc, et qui sont vos clients?
Et les clients de grandes sociétés panafricaines, des champions.
Lesquels?
Et tous, on a une grande variété de clients. Et permettez-moi de ne pas les citer ici, parce
ouais,
que
j'ai bien compris que
dans notre métier, c'est pas ce qu'on fait.
Que mais aussi les États. Le banquier n'est pas loquace.
Le banquier n'est pas loquace, mais il est efficace.
C'est une jolie rime. Au cours de cette émission, Donald Kaberuka, nous allons continuer à parler de votre parcours, du regard que vous portez sur les économies africaines, du rôle des banques. Nous entendrons une interview de l'économiste Milassoa Cherelle Robson de la CNUSED, un reportage d'Anne Corpé à Washington sur la visite du président kényan Kenyatta. Nous retrouverons aussi Olivier Roger du service économique de RFI. Au moment où nous parlons, Donald Kaberuka, ont lieu à Paris, au cimetière du Père-Lachaise, les obsèques d'un grand économiste africain. Samir Amin était né en Égypte. s'était formé en France, puis installé à Dakar, il pourfendait le colonialisme, la domination de l'Europe, des États-Unis, du Japon, sur les pays qu'il qualifiait des pays de la périphérie dont faisait partie l'Afrique à son avis. L'un de ses derniers combats aura été celui contre le franc CFA. Est-ce que vous connaissiez les travaux de Samir Amin? Est-ce que vous les avez étudiés? Qu'est-ce que vous en pensez?
Je connaissais très bien les travaux de Samir Amin, surtout cette fameuse théorie de change inégal. Il était parmi donc les économistes des années 70 qui avaient un certain point de vue sur le monde et sur le tiers-mondisme comme il l'appelait à l'époque. Il a eu beaucoup d'influence sur beaucoup de jeunes, surtout dans les années 90, au moment où l'économie du monde connaissait des vrais problèmes avec les questions du dollar, avec la première crise énergétique, avec la première crise de la dette en Amérique latine, en Afrique. Donc, il a eu beaucoup d'influence.
Sur Mais, vous ? Est-ce qu'il a eu de l'influence sur vous ?
Bon, c'est un certain des éléments, oui.
Lesquels ?
Mais, par exemple, il parlait beaucoup du fait que la transformation économique du continent africain devrait partir d'une grande participation dans le commerce mondial. Or, les règles du commerce mondial étaient... pas d'intérêt de l'Afrique, à l'époque. Donc, il disait, le commerce libre, la libre échange, c'est bon, mais il faut que les règles soient égales pour tout le monde. Donc là, je le suivais. Mais il y avait d'autres éléments aussi, évidemment, où on pouvait en discuter avec lui. Je ne l'ai pas connu personnellement, mais je suivais ses écrits. Tout ce que je peux dire, c'est qu'il a eu beaucoup d'influence sur la jeunesse.
Son dernier combat sur le franc CFA, quelle est votre position sur cette critique virulente qui émane de certains milieux économistes en Afrique,
écoutez,
face à cette monnaie franco-africaine?
Écoutez, il ne m'appartient pas, moi, de me prononcer ou donner une opinion sur...
Pourquoi vous n'êtes plus un responsable politique, entre guillemets?
J'ai dit, il ne m'appartient pas à moi de me prononcer là-dessus. Il appartient aux pays membres de la zone CFA de continuer la réflexion des réformes qu'il faut. Je pense que tout le monde est d'accord pour dire qu'une monnaie qui a survécu tant d'années doit avoir certains avantages, mais aussi que avec les années qui passent, il faut toujours des réformes, il faut un dynamisme là-dessus. Je pense que tout le monde est d'accord. Mais ce n'est pas à moi de me prononcer sur une telle ou telle position par rapport à cette monnaie.
On va parler encore un peu de sujets d'actualité, je dirais, qui se déroulent à Paris. Vous en avez peut-être entendu parler, Donald Kaberuka. Il y a quelques jours, la vie politique française a été secouée par la démission spectaculaire d'un ministre très emblématique, Nicolas Hulot, ministre de l'écologie. Il reproche au président de la République française et au gouvernement français de rester dans un schéma de développement économique classique capitaliste, de ne pas décarboner assez l'économie française. Quand on regarde ce qui se passe en Afrique, est-ce qu'on est aussi, peut-être, encore dans un choix de développement économique classique avec la course à l'industrie et donc pas assez de soucis portés sur la décarbonation de l'économie?
Écoutez, d'abord, il ne m'appartient pas encore une fois de...
Non, mais je ne vous demande pas votre avis sur je ne vous demande pas votre avis sur la crise franco-française. Je vous demande si cette crise, peut-être, cette critique que fait Hulot peut être répliquée aux économies africaines et aux choix des gouvernements africains et par extension au choix que vous avez fait quand vous étiez à la tête de la Banque africaine de développement.
Alors, je m'explique. Il y a trois ans, en 2015, il y avait une grande conférence sur ce qu'on appelle les objectifs de développement durable.
Mmh, les ODD, oui.
Il y avait une grande conférence à Paris ici sur le changement climatique. Mmh. Il y avait notre grande conférence à Addis Abeba sur le financement du développement. Ces trois conférences, dites probablement les plus importantes depuis 1945, le temps où les Bretton Woods, le système a été mis en place. Des gens pensent que c'était la définition même de ce que le monde devrait être aujourd'hui. Donc tout ce que vous me posez comme question, c'est le développement durable, sur les questions sociales, si la décarbonisation est définie clairement dans ses objectifs de développement,
oui,
et la conférence de Paris. Maintenant,
une chose est de définir ses objectifs, une autre et les appliquer. Ce que Hulot reproche au gouvernement français, c'est de ne pas aller assez loin dans l'application de ces principes. Est-ce qu'on peut adresser le même reproche ou porter le même jugement sur les politiques qui ont cours en Afrique? Est-ce que les pays africains vont assez loin dans l'application de ces objectifs de développement durable? Et est-ce que l'application de ces objectifs est compatible avec le mode de développement que les pays africains recherchent aujourd'hui?
Là, vous posez pas la bonne question.
Posez-la.
L'Afrique se développe aujourd'hui, a assez de possibilités de se développer par une économie décarbonisée. Donc, pour nous, c'est pas le choix entre une économie carbonisée ou pas. Parce qu'avec la démographie galopante qu'on a en Afrique, avec les moyens qu'on a sur l'économie verte, on a la possibilité de se développer autrement. Mais cela demande que le reste du monde joue sa partie. Et parce que l'Afrique n'a pas contribué au changement climatique. Et sa contribution à la carbonisation n'a pas été significative. Mais nous sommes partie du monde. Nous comprenons le fait que les engagements pris à Paris pendant cette conférence engagent tout le monde. Donc l'Afrique a la possibilité de se développer autrement. Mais dans quelle grande puissance, comme aujourd'hui aux États-Unis ou ailleurs, il y a des débats de type « le changement climatique ne nous intéresse pas », ça c'est dommage. Et là je salue par exemple les grands progrès faits par la Chine qui aujourd'hui devient le champion de cette mode de croissance.
Alors justement, on va parler de la Chine. Donald Kaberuka, vous êtes le grand invité de l'économie. Dans deux jours après-demain, lundi, s'ouvre à Pékin la 7e grand-messe des relations économiques sino-africaines. Cela s'appelle le Forum sur la coopération sino-africaine. C'est important pour l'Afrique?
C'est très important pour la Chine et pour l'Afrique et pour le reste du monde.
Vous y serez?
Non, je ne suis pas partie des délégations. Mais je suis de très près sur ce qui se passe entre la Chine et l'Afrique. Il y a beaucoup de malentendus. Il y a beaucoup de China-bashing de temps en temps. Alors là, je voulais dire trois choses. Primo, c'est que, contrairement à ce que les gens pensent, des relations entre la Chine et l'Afrique n'est pas seulement si les questions de ressources naturelles. Je vous donne à titre d'exemple deux grands chemins de fer qui viennent d'être construits au Kenya et en Éthiopie, en Djibouti et Addis Abeba. Les deux pays n'ont pas vraiment des grands pourvoyeurs de matières premières, dites le pétrole et consorts. Donc il y a une coopération entre nos deux continents au niveau de l'investissement, au niveau de l'appui à l'économie réelle.
Vous ne me dites pas quand même que la coopération chinoise en Afrique est désintéressée, que l'aide, que les investissements que les Chinois font en Afrique sont désintéressés.
Est-ce que la coopération entre les anciennes puissances est désintéressée? Je ne sais pas.
Non, je crois pas.
Mais je voulais vous dire seulement que aujourd'hui, tous les investissements chinois dans le monde, il y en a que 4% qui est destiné à l'Afrique. Mais il y a trop de bruit là-dessus. Moi, je dis tout simplement que cette relation a été transformatrice. Un. Deux, il n'est pas toujours destiné à la matière première. Trois, toute la croissance qu'on a connue depuis 15 ans, qui est tirée surtout par l'investissement en infrastructures, chemin de fer, les barrages, et ça lui parle beaucoup d'Africains. Maintenant, il y a des choses à corriger, il y a des choses à revoir, de part et d'autre.
Donc, je crois qu'il faut revoir?
Écoutez, ce sommet à Pékin donne l'occasion aux participants de faire une évaluation de ce qui s'est passé depuis des années. Et, donc, comme la coopération avec l'Europe, comme la coopération avec les États-Unis, il y a toujours un dynamisme, il faut revoir des choses pour qu'on avance plus rapidement et de manière équilibrée.
Les routes de la soie, c'est un projet très important aux yeux des dirigeants chinois, à tel point que ça fait partie maintenant de la charte du Parti communiste chinois. Mais de nombreux pays asiatiques sont en train de se faire, d'une certaine manière, piégés par les projets de la route de la soie, parce qu'ils investissent, je ne dirais pas à fond perdu, mais ils investissent beaucoup d'argent, leur endettement explose. C'est un peu aussi le cas en Afrique. Djibouti, par exemple, selon le FMI, a vu en 2 ans sa dette passer de 50 à 85% de son PIB à cause des créances dues à Exim Bank chinoise. Est-ce que il n'y a pas quand même des risques à cette coopération sino-africaine?
Alors, parlons de deux choses différentes. Des relations économiques avec la Chine et puis question de gestion de la dette. Peu importe l'origine de la dette. Il y a aussi la dette des eurobonds. Donc, la gestion de la dette est quelque chose qui est très importante. Et la gouvernance de la dette, la transparence, oui. Mais ça n'a rien à voir avec la dette d'un tel ou tel pays. Je dis tout simplement que la crise de la dette des années 80-90 a été surtout due au fait que les économies africaines étaient en croissance souvent négative. Aujourd'hui, grâce aux investissements, avec la dette dont vous parlez, on investit dans le chemin de fer, dans les barrages, donc il y a des économies en croissance au-delà de 5, 6, 7%. Maintenant, vous avez raison, il faut bien gérer la dette. Il faut bien investir, que ce soit les eurobonds ou que ce soit la dette chinoise. Mais je ne pense pas qu'on est sur le chemin d'une autre crise de la dette, et j'entends souvent parler. Il y a une dizaine de pays, effectivement, où l'accumulation de la dette a été assez rapide. Ça va de 20% du PIB à 50% pendant une période très courte. Ça se demande attention. Que ce soit l'origine de la dette. Mais dans la plus grande de nos pays, la gestion de la dette me semble transparente, bonne. Il faut le surveiller. Mais je ne suis pas parmi ceux qui commencent à créer gale à la dette chinoise et autres.
Parlons un peu des investissements étrangers en Afrique. Au mois de juin dernier, la CNUSED, la Conférence des Nations Unies pour le Commerce et le Développement, a publié un rapport qui fait état d'un très fort recul des investissements étrangers en Afrique, moins 21% entre 2016 et 2017. Écoutez les explications à ce sujet de Mila Soa Cherel-Robson de la CNUSED.
Tout d'abord, il faut situer ce recul dans le cadre de la baisse des investissements directs étrangers au niveau mondial, puisqu'ils ont baissé de 16%. Et l'Afrique ne fait que faire partie de cette vague de réduction des investissements directs étrangers. Ceci dit, ce recul est principalement dû à la volatilité des prix des matières premières et ne reflète en aucun cas, d'une certaine manière, le dynamisme qui est réel dans d'autres secteurs sur le continent. Ça, c'est une chose. La deuxième chose à retenir, c'est que elle n'est que conjoncturelle, hein, puisque le même rapport que vous avez cité projette aussi, à partir donc des analyses de la CNUSED, un rebond des IDE de 20% pour l'Afrique dès 2018. Donc il y a une dynamique de fonds qui est en œuvre depuis quelques années et qui s'est atténuée, encore une fois, du fait de la volatilité des prix des matières premières. Mais en parallèle de cela, la signature de l'accord pour la zone de libre-échange continentale en Afrique en mars dernier commence à porter ses fruits en termes de signes fort auprès des investisseurs concernant une réelle volonté donc des leaders africains actuellement au pouvoir d'aller vers plus d'investissements et de création d'emplois.
Mais malgré tout, est-ce que ça ne veut pas dire ces fluctuations d'investissements internationaux importantes que l'Afrique dépend toujours beaucoup de ses matières premières ?
Alors, ça reste un fait. Et là, je vous ramène à un autre rapport de la CNUSED qui s'en lamentait, justement, et que nous avons lancé en décembre 2017 et qui soulignait cette forte dépendance des matières premières. Mais je dirais, le rapport qui a été publié en juin, lui, offre quand même un paysage beaucoup plus contrasté puisqu'il souligne déjà des variations intra-africaines concernant l'attraction des IDE. Vous avez une baisse conséquente en Afrique australe de 66%. Principalement dû à un recul des investissements en Afrique du Sud et en Angola. Et en parallèle de cela, une baisse de seulement 4% en Afrique du Nord, puisque le Maroc, lui, a vu ses IDE augmenter de 21%, en attirant notamment des investissements dans le secteur de l'automobile, mais aussi dans les nouvelles technologies. Et en Afrique de l'Est, pareil, la baisse, elle est très, très faible, puisqu'elle n'est que de 3%. Et le Kenya, notamment, a eu un bond de 71%. Et là encore, dans le cas du Kenya, il faut souligner une diversification assez importante donc, de son économie, notamment du secteur manufacturier au secteur des services et des nouvelles technologies, et qui me semble être justement un exemple pertinent, si vous voulez, de ces deux marches parallèles de l'économie africaine telle qu'on l'a la comprend aujourd'hui.
C'était donc Mila Soa, Cheryl Robson de la CNUSED. Donald Kaberuka est le grand invité de l'économie. Donald Kaberuka, il y a du positif et du négatif, surtout du positif dans ce que dit Mila Soa, Cheryl Robson concernant la diversification des économies africaines.
Écoutez, l'Afrique, c'est 55 pays. Il y a trois grandes économies qui ont connu des difficultés ces dernières années. L'Afrique du Sud, le Nigeria et l'Angola, qui comptent à trois sœurs pratiquement 48% du PIB de l'Afrique subsaharienne. Donc, suite à ces difficultés dans ces trois pays, nous avons donc connu cette contre-performance. Mais j'ajoute à ce qu'a dit notre collègue dans son excellente analyse, la situation est très variable. C'est vrai qu'il est volatile, mais il est très variable. Ce n'est pas tous les pays africains qui sont trop dépendants de matières premières. Donc je constate, par exemple, que les pays comme la Côte d'Ivoire, le Sénégal, le Kenya, le Rwanda, l'Éthiopie, qui ne sont pas fortement dépendants des matières premières, continuent de connaître une croissance au-delà de 6%. Donc la situation telle qu'elle est décrite par notre collègue de la CNUSED, qui est la suite de la crise de 2008, il est très variable sur le continent. Donc je reste convaincu que avec la reprise de l'économie mondiale, avec la reprise de ces trois grands pays africains, que la situation va évoluer positivement dorénavant. J'ajoute aussi à ce qu'elle a dit, l'importance de cette zone de libre-échange panafricaine.
Parce qui a été signée en mois de mars par 44 pays à Kigali.
Tout à fait. Dont on attend
chez
les
vous.
Merci. Dont on attend des ratifications d'ici la fin de l'année. C'est très important pour le commerce intra-africain, mais aussi très important pour l'investissement envers l'Afrique. Parce que souvent, les grands investisseurs qui viennent sur le continent regardent notre continent comme un seul marché. Raison pour laquelle, quand on lève les barrières tarifaires, non tarifaires, comme c'est le cas dans la zone de libre-échange, et certainement qu'elle va attirer davantage des investissements.
Mais vous savez qu'il y a quand même encore aujourd'hui énormément de barrières douanières, tarifaires ou non tarifaires, beaucoup d'obstacles aux échanges commerciaux, même dans la zone dont vous venez, en Afrique de l'Est, dans l'Afrique des Grands Lacs, pour passer de l'Ouganda à la Tanzanie. Il y a beaucoup de problèmes.
Je voulais nuancer. Le problème tarifaire n'est plus important comme avant. L'Afrique a beaucoup avancé au niveau des tarifs. Là où le problème persiste, et c'est là l'importance de la zone de libre-échange, c'est des questions non tarifaires. C'est là où on a encore des progrès à faire. C'est la question de circulation des personnes sur le continent. Et tout est prévu dans la zone de libre-échange.
C'est-à-dire qu'il n'y aura plus d'attente interminable pour les camions au passage des douanes ? Il n'y aura plus de douanes carrément ?
La zone de libre-échange contient tous les éléments qui permettent au commerce fluide sur le continent. Maintenant, dans l'exécution, il faut y travailler. Mais dans l'esprit de la zone de libre-échange, c'est effectivement de permettre un commerce fluide sur le continent.
Il y a malgré tout un os, entre guillemets, dans cet accord, c'est que le Nigeria n'a pas signé.
Le Nigeria n'a pas signé, il a donné ses raisons, consultation interne. Tout ce que je peux dire ici, c'est que toutes les craintes qu'un tel ou tel pays pourrait avoir si la zone de libre-échange, en fait, tous sont prévus dans le texte de l'accord. Que ce soit la question du dumping, que ce soit la question de certaines industries qui demandent une certaine période d'ajustement, que ce soit une liste de produits dits sensibles, tout cela est prévu dans le texte de la zone libre-échange.
Et alors, donc, vous attendez quelle progression du commerce intra-africain, parce qu'il reste assez faible aujourd'hui. Comment est-ce que vous le voyez progresser ?
Encore est mal entendu. Il y a des régions de l'Afrique où le commerce dans la région est très important. Je vous donne le cas de l'Afrique de l'Est. Nous sommes à 26% du commerce mondial. C'est exactement le même niveau qu'en Asie du Sud-Est. La même chose au niveau de la CEDEAO. au niveau de Comesa. Mais nous avons deux régions africaines où il faut avancer plus rapidement, c'est l'Afrique du Nord et l'Afrique centrale. C'est pourquoi souvent on cite ce chiffre de 12%, mais il y a des régions de l'Afrique où on a fait des progrès énormes. Mais je voudrais ajouter que la zone de libre-échange n'est pas seulement pour les produits physiques, les marchandises. C'est aussi sur les services. On pense même que, si vous voulez, les gains de cette libre-échange, probablement autour de 52%, ça sera pour les services. Services logistiques, les banques,
l'information. 52% des gains.
Voilà. Donc, logistique, les banques, assurances, informations, et tout de suite. Donc, c'est important. Les marchandises, mais aussi les services. C'est pourquoi, un peu comme le Nigeria, s'il signe, ce que j'espère sera pour bientôt, va être parmi les grands bénéficiaires de cette zone de libre-échange.
On reste en Afrique de l'Est, d'une certaine manière. Le président kényan, Uhuru Kenyatta, était au début de la semaine à Washington, où il a été reçu par le président Donald Trump à la Maison Blanche. Les deux hommes ont surtout parlé économie. Écoutez le reportage de la correspondante permanente de RFI à Washington, Anne Corpet.
Mélania et moi avons été très honorés de recevoir le président de la République du Kenya et son épouse à la Maison Blanche. Posté sur le compte Twitter de Donald Trump en fin d'après-midi, le message est accompagné d'une vidéo qui montre les deux couples dans le bureau ovale et les jardins. Dans un communiqué commun, les deux chefs d'État s'engagent à poursuivre leur coopération en matière de sécurité et surtout à renforcer leurs relations commerciales. En accueillant son homologue kényan, le président américain avait fait part de ses ambitions.
Nous allons conclure de bons accords pour nos deux pays. Nous travaillons sur un projet majeur d'autoroute qui semble bien avancé. C'est un projet très important pour votre pays.
Le commerce et les investissements avant tout, Uhuru Kenyatta semblait sur la même longueur d'onde.
Le Kenya et les États-Unis ont une relation forte depuis l'indépendance. Nous sommes ici pour la renouveler, pour renforcer notre excellent partenariat, en particulier dans la lutte contre le terrorisme. Mais plus important encore, nous sommes ici pour renforcer nos liens commerciaux et les investissements pour le bénéfice mutuel de nos deux pays.
Au terme de la visite d'Uhuru Kenyatta, les deux chefs d'État ont annoncé la poursuite des consultations sur le projet autoroutier entre Mombasa et Nairobi, et pour un total de près de 900 millions de dollars de contrats et d'engagements divers, sans plus de précision.
C'est un reportage d'Anne Corpel, on va en parler dans quelques minutes, Donald Kaberuka, mais d'abord, une petite pause musicale avec Christian Olivier, un titre « Démocratie ».
Un brin de liberté, tu m'as dit je te la donne, mais faut pas que tu t'étonnes, il y aura des fleurs qui piquent, place de la République, des mots, démocrame aussi, des mots, démocrame aussi. Les écrans qui s'animent animent nos déprimes. Ce brin de liberté, je crois, j'en ai rêvé. Tu m'as dit c'est tout comme je te fais les droits de l'homme, par nation ou Barbès, de Gavroche à Jaurès, en un coup de crayon, on a biffé vos noms, ça m'a fendu le pic, place de la République, démo, démocratie, démo, démocrame aussi, démo. Démocratie, démo, démocrate aussi.
« Démocratie par Christian Olivier. Donald Kaberuka, vous êtes le grand invité de l'économie. Nous étions tout à l'heure avec notre correspondante Anne Corpé à Washington, où Donald Trump faisait des promesses d'investissement au Kenya. Il faut croire aux promesses de Donald Trump concernant l'Afrique?
D'abord, je voulais féliciter notre frère, le chef de l'État du Kenya, pour sa visite réussie à Washington. C'est excellent.
Alors, est-ce que c'est excellent et en quoi est-ce qu'elle était réussie?
Je voulais faire trois commentaires. Vous savez, les relations entre l'Afrique et les États-Unis, pendant longtemps, étaient définies sous l'angle de la guerre froide.
Entre la Russie et les États-Unis, l'Afrique.
C'est ce qui était appelé l'Est et l'Ouest. C'était cela qui définissait nos relations.
L'Union soviétique à l'époque.
En plus, dans les années 90, c'était défini sur l'angle de l'humanitaire. Qu'est-ce qu'on peut faire pour l'Afrique?
La charité.
La charité. Un peu plus tard, c'était plutôt autour des questions de sécurité. Donc, je salue le fait que les États-Unis comprennent que l'Afrique n'est pas seulement définie en ces termes-là. Que c'est une région d'investissement. C'est une région où on peut coopérer comme on coopère avec l'Amérique latine, l'Asie et autres. Donc, je sais le fait que le chef de l'État américain, qui récemment a fait des commentaires, bon, ce qu'on dit, c'est l'Afrique. Aujourd'hui, reconnaissent que l'Afrique, c'est une zone d'investissement comme d'autres régions du monde. Donc,
Que Donald Trump ne parle pas de zone, mais de pays, qu'il essaye d'instaurer des relations bilatérales avec tout le monde, de pays à pays, de fort à faible. Est-ce que c'est une conception des relations à la fois diplomatiques mais aussi économiques internationales qui est rassurante pour un continent comme l'Afrique?
Écoutez, je ne suis pas électeur américain, donc je n'ai pas à commenter sur ce que
non,
dit
le chef. Non, mais vous êtes citoyen rwandais,
tout simplement natif d'Afrique. Il appartient à nous, les pays africains, de définir des relations que nous souhaitons avec ce grand pays, comme d'autres pays du monde d'ailleurs.
Mais est-ce que vous pensez, par exemple, que la guerre commerciale que Donald Trump est en train d'organiser avec la Chine, principalement, et aussi avec l'Union européenne, peut nuire aux échanges et à la situation économique africaine?
Tout le monde est perdant. Pendant la guerre commerciale, il n'y a pas un gagnant. Donc nous retournons à les années 30, avec les problèmes qu'on a connus. Mais je pense que nous avons tous intérêt aujourd'hui de retourner au principe de base de l'OMC. Que vous soyez un grand pays ou des pays moins nantis. La guerre commerciale, c'est cela. C'est une guerre où tout le monde est perdant. Alors j'espère que cet épisode est très court, qu'il est résolu rapidement dans l'intérêt de tout le monde.
Nous sommes au mois de septembre 2018. Il y a 10 ans, en 2008, une énorme crise financière ébranlait le monde. Vous étiez à l'époque à la tête de la Banque africaine de développement. Quel souvenir gardez-vous de cette période, Donald Kaberuka?
D'abord, une réflexion. Première réflexion, c'est que à la fin de la guerre froide, il y a un grand économiste américain qui avait écrit un livre qui s'appelle « La fin de l'histoire ». Comme quoi donc la doctrine économique et politique de l'Occident a gagné. Mais là, avec la crise de 2008, on a vite compris que la doctrine de néolibéralisme en tant que mode de gestion économique mondiale avait ses limites. Ce qui nous permet aujourd'hui d'être plus pragmatique, de regarder la gestion d'économie de nos pays, l'économie du monde, avec moins de dogmatisme. C'est ça ma première réflexion. Nous avons aujourd'hui le groupe du G20, où les pays membres de ce grand groupe ont des approches économiques assez variées, assez différentes. C'est très important pour l'Afrique, parce qu'auparavant, on nous présentait des choix. Le néolibéralisme tel qu'est décrit alors, ou l'économie contrôlée étatique. Aujourd'hui, on a plus de pragmatisme. C'est très important. Mais ce que je garde, moi, comme souvenir de cette crise, c'est la résilience du continent africain. J'ai convoqué à l'époque les ministres des Finances de l'Afrique, la Banque centrale, tout le monde. On a dit que l'Afrique sera le plus grand perdant dans cette crise. Ça n'a pas été le cas. l'Afrique a connu un petit choc secondaire, c'est l'économie réelle, en termes de demande réduite de ces matières premières, en termes de banques européennes qui quittaient le continent. Mais dans une grande partie, notre continent a monté une résilience incroyable.
Savez,
d'abord là-bas, DEI a contribué parce que...
Oui, vous savez qu'on a beaucoup dit à l'époque que l'Afrique avait échappé à l'essentiel de la catastrophe financière qui se déroulait parce qu'elle n'était justement pas tellement impliquée dans cette sphère financière et économique qu'elle était un peu marginale et que c'est en raison de cette marginalité qu'elle a échappé au gros des...
Bon, c'est le raisonnement classique et paternaliste sur l'Afrique. Il y avait une autre raison. C'est que dans les années 90, les années dites d'ajustement structurel, les années des réformes économiques, l'Afrique avait renforcé sa position macroéconomique. Donc on avait une capacité d'absorption de chocs plus importante qu'auparavant. Donc c'est vrai que notre part dans l'économie mondiale n'était pas si importante. On n'avait pas beaucoup de ces produits toxiques dans nos banques, qui étaient d'ailleurs très bien régulés. Donc moi je pense plutôt c'était les effets des réformes faites dans notre continent dans les années 80. J'ajoutais que à cette époque, la BAD a doublé son soutien aux pays africains. Nous avons passé de pratiquement 7 milliards autour de 14 milliards en termes d'appui budgétaire, de liquidité, de la balance de paiement, pour aider nos pays à absorber le choc extérieur. Mais il y a eu des effets sur l'économie secondaire qui d'ailleurs persistent jusqu'à aujourd'hui. Mais mon souvenir le plus important, c'est le fait que tout le monde disait, oui, c'est l'Afrique qui va en partir le premier. Ça n'a pas été le cas. L'Afrique a monté une résilience très importante.
Vous êtes fier de ce que vous avez fait à la tête de la Banque africaine de développement?
C'est pas moi seul. C'était un travail fait par tous nos collègues à la Banque africaine, dans d'autres institutions. Donc, fierté personnelle, bon, ce n'est pas vraiment la plus importante. C'est plutôt la réponse appropriée de nous-mêmes à la Banque africaine, mais aussi nos collègues dans les différents pays, dans les domaines qui les concernaient.
Est-ce que vous pensez que les leçons de la crise de 2008 ont été tirées et qu'un scénario semblable ne peut pas se reproduire?
Je l'espère. Mais la plus importante pour moi, c'est que les réponses qu'on donne à cette crise ne fait pas... ne ressemble pas à vouloir tuer une mouche avec un marteau. Parce que, par exemple, au niveau de régulation des banques, au niveau des nouvelles critères de Bâle, il y a...
critères de Bâle qui sont définis donc par les organismes internationaux situés dans la ville suisse de Bâle.
Tout à fait. Donc, ce qu'on appelle la Bank of International Settlements. Mm-hmm. C'est vrai qu'il faut renforcer la régulation. C'est vrai qu'il faut éviter les erreurs faites à Wall Street. Mais il faut permettre aussi aux banques de continuer de financer nos économies. Donc, je crois qu'au niveau du G20, au niveau des grandes institutions internationales, cette réflexion est en cours. Donc, nous devons tirer des leçons que on ne peut pas gérer l'économie mondiale comme dans le Wild West. Laisser tout...
Comme dans l'Ouest sauvage, oui.
Ce qui était un peu le cas dans les années 90. Mais il ne faut pas non plus chercher à tout réguler. Parce que cela va freiner un peu donc, le dynamisme des économies émergentes et des économies africaines.
Qu'est-ce que vous craignez, par exemple, comme régulation excessive?
Voyez-vous, les nouveaux critères de Bâle ont conduit à un certain nombre de banques européennes de se retirer de l'Afrique. Nous avons constaté à un moment donné que, par exemple, le commerce, le financement du commerce commençait à être vraiment très réduit. D'ailleurs, on avait fait une étude à l'époque avec nos amis de l'OMC et pour imaginer de nouvelles solutions qui permettraient au financement du commerce de continuer sans être touché par cette crainte par les banques qui voyaient des nouvelles régulations qui étaient extrêmement réduites.
En Afrique même, est-ce qu'on ne souffre pas au contraire d'un manque de régulation bancaire?
Je ne suis pas d'accord avec cette analyse. Je pense qu'au niveau de régulation bancaire, les pays africains ont fait d'énormes progrès. Et c'est la raison, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, et pourquoi dans la crise de 2008-2009, nos banques ont resté solides. Il y a des difficultés dans certains pays liées au fait que souvent, les banques sont très exposées à l'industrie de matières premières, le pétrole le gaz, ainsi de suite. Donc, quand il y a des problèmes dans ce secteur, les banques sont touchées. Il y a aussi d'autres pays aujourd'hui qui sont touchés par les crises d'ordre sécuritaire, qui est donc, comme vous le savez très bien, au niveau du Sahel, au niveau de la Côte d'Afrique, qui touche à l'économie réelle et évidemment aussi le système financier. Mais je pense qu'on a fait beaucoup de progrès à la matière.
Il y a en ce moment en cours une renégociation entre l'Afrique et l'Europe des accords de partenariat, des accords de Cotonou. Or, l'Europe file un mauvais coton, vous le savez. L'Italie refuse d'accueillir les migrants. La Hongrie et l'Autriche sont gouvernées par des équipes d'extrême droite. Des chasses à l'étranger ont lieu en Allemagne. Dans ce climat xénophobe, raciste souvent, comment est-ce que des pays africains peuvent négocier avec l'Europe ?
Écoutez, l'Europe, c'est notre plus grand voisin. Nous sommes séparés par quelques kilomètres de la Méditerranée. Donc, le continent européen, le continent africain ont intérêt à négocier une nouvelle relation qui reflète les vérités d'aujourd'hui, la démographie, la coopération, ainsi de suite. Maintenant, vous soulevez la question de la démagogie, du populisme qui se développe en Europe suite aux soi-disant crises des migrants. Est-ce que vous savez que ce n'est que 3% de tous les migrants de l'Europe qui viennent de l'Afrique? Est-ce que vous savez que la plus grande partie de migration africaine, il est intra-africaine? Mais puisqu'on voit ces images dans la Méditerranée, suite à la crise libyenne, suite aux trafiquants de personnes, qu'on nous devrait régler ensemble. Et donc les populistes écrivent, voilà, l'immigration africaine va envers l'Europe. Nous avons intérêt à y travailler ensemble, vu le dynamisme économique, démographique de nos deux continents. C'est à l'Europe de gérer ses extrémités, droite ou gauche. Ce n'est pas la première fois que l'Europe doit gérer donc ces extrémistes. Mais il ne faut pas confondre cela avec des relations entre l'Europe et l'Afrique qui doit quand même s'inscrire dans le long terme, surtout vu la démographie de nos deux continents.
Qu'est-ce que vous attendez que votre collègue Carlos Lopez, qui est en charge de la négociation avec l'Europe pour l'Union africaine, obtienne de cette négociation économique sur les échanges entre l'Europe et l'Afrique? C'est quoi les objectifs
Alors,
pour vous?
Les gouvernements africains, avec l'appui de mon collègue Carlos, ils travaillent. Qu'est-ce qu'on cherche? Des relations équilibrées, des relations dynamiques, des relations de moins de partenarisme, un vrai partenariat, que ce soit au niveau du commerce, et au niveau social, et au niveau sécuritaire. Et c'est le lieu d'abord de saluer le fait que l'Europe nous a beaucoup appuyés dans le domaine de maintien de la paix dans la Corne de l'Afrique. Et c'est les budgets européens qui ont financé l'essentiel des forces en Somalie. Donc nous avons des intérêts communs, que ce soit commercial, sécuritaire, voile humaine tout simplement. Donc dans ces relations, nous devons chercher des relations décomplexées.
Mais des relations qui s'incarneraient dans quelle mesure, dans quel dispositif précisément,
par exemple ? C'est ça l'objet de négociation. L'objet de négociation.
Mais vous appelez de
vos
voeux.
Je pense que vu la démographie européenne, vu la démographie africaine, nous avons intérêt à redéfinir la direction des investissements. Nous avons intérêt à développer ensemble les besoins de l'Afrique et de l'Europe au niveau de l'investissement, de l'éducation, de la sécurité. Je crains qu'aujourd'hui, on commence par une mauvaise analyse. Je vois beaucoup de dirigeants européens qui disent « Oui, il faut que les migrants africains restent chez eux. » Bon, nous allons apporter un petit aide pour que les migrants restent chez eux. C'est une définition très primaire. Je dirais même superficielle. Nous avons intérêt, ensemble, l'Afrique et l'Europe, à revoir nos relations d'une façon dynamique. Et j'espère que pendant ces négociations, ça sera le cas.
Donald Kaberuka, vous êtes le grand invité de l'économie aujourd'hui sur RFI. Je parlais des pays européens qui se refermaient sur eux-mêmes. Il y en a un autre qui se referme, c'est la Grande-Bretagne avec le Brexit. Dans le même temps, Londres cherche à s'ouvrir à de nouvelles relations économiques. avec l'Afrique en particulier. La première ministre britannique Theresa May était en tournée sur le continent cette semaine. On écoute le compte-rendu qu'en a fait Olivier Roger du service économique de RFI.
Partir à la conquête du monde pour digérer le Brexit, voilà le credo des autorités britanniques qui souhaitent accélérer leurs échanges avec l'Afrique et notamment ses trois principaux partenaires, l'Afrique du Sud, le Nigeria et le Kenya. Theresa May veut faire du Royaume-Uni le premier investisseur en Afrique parmi les pays du G7. D'ici 2022, plus d'investissements pour ouvrir de nouveaux marchés. Pour cela, Londres dispose d'atouts non négligeables. La Grande-Bretagne est l'un des rares pays du Nord à consacrer 0,7% de son PNB aux pays en développement, une financière que les Britanniques vont augmenter de 4 milliards de livres en investissant dans les économies africaines. Londres veut aussi négocier de nouveaux accords commerciaux avec ses partenaires, les actuels ayant été conclus sous l'égide européenne. Par ailleurs, Theresa May devra surtout rassurer car le Brexit fait peur. Ainsi, les entreprises sud-africaines utilisent le Royaume-Uni comme tête de pont pour exporter en Europe. Elles subiront forcément les conséquences du Brexit. De même, les banques sud-africaines ou nigérianes se financent en priorité à la City et dépendent donc de ses liquidités. Autre point problématique, les échanges sont déséquilibrés. L'Afrique du Sud, son premier partenaire africain, n'est que le 28e client du Royaume-Uni.
Olivier Roger du service économique de RFI, est-ce que cette tournée de Theresa May et ce qu'elle apporte ou ce qu'elle veut prendre en Afrique répond à vos inquiétudes sur ce que vous disiez de la superficialité de certaines intentions européennes ? David l'Afrique.
Écoutez, l'affaire du Brexit ne concerne que le Royaume-Uni et ses amis européens.
Vous croyez ?
Moi, j'observe tout simplement ceci, c'est que tout dirigeant européen qui conçoit l'Afrique comme terre d'investissement, comme une région où la coopération doit être axée sur le commerce et l'investissement, est le bienvenu. Je salue le fait que ça commence à être le cas.
Angela Merkel est aussi en Afrique en ce moment.
Mais est-ce que vous savez que le président chinois a fait pratiquement 5-6 tournées en Afrique depuis 5 ans parce que cette relation est vue autrement. Donc je pense que ce soit les dirigeants britanniques, français ou allemands, l'essentiel, c'est que l'Afrique soit vue comme une terre d'investissement, du commerce, une région comme les autres, comme l'Amérique latine, comme l'Asie. Donc c'est comme ça, moi, je vois les visites de ces chefs d'État sur le continent africain.
Donald Kaberuka, vous avez été à la tête de la Banque africaine de développement, vous êtes aujourd'hui un banquier privé, vous avez été ministre, la politique s'est terminée pour vous, c'est une page définitivement tournée.
Écoutez, je pense que pour tous ces fils de l'Afrique, ou filles de l'Afrique, diriger la Banque africaine a été une responsabilité très importante. Et j'ai passé 10 ans à la Banque africaine de développement. On a fait avec mes collègues ce qu'il fallait faire. Maintenant, je me suis tourné vers une banque privée pour trouver les moyens d'aider l'Afrique à trouver des investissements, créer des emplois pour la jeunesse. Et avec mes collègues donc, du groupe Southbridge, c'est ça notre travail, promouvoir les champions panafricains, conseils stratégiques, conseiller financier, et je pense que création d'emplois pour les jeunes et aider nos pays à tirer des investissements, c'est l'urgence des urgences.
Eh bien, on vous retrouvera probablement dans une émission prochaine pour en parler, Donald Kaberuka. Celle-ci est maintenant terminée. Merci à vous d'avoir accepté l'invitation de RFI. Cette émission était réalisée et mise en ondes par Fabien Mugneret, et je vous dis à la semaine prochaine pour de nouvelles aventures économiques.
Écho d'ici, écho d'ailleurs, sur RFI.